In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, ora vinus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Sed est sapientiae, sancte piedecime, sancte tona,
in
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Chers confrères, mesdames, messieurs, depuis le début de ce congrès, nous entendons des choses épouvantables, effrayantes, sur cette question de l'œcuménisme. Je pense que une bouffée d'oxygène, d'air frais, en entendant un peu la bonne doctrine, la saine doctrine de l'Église, afin de nous rassurer dans notre foi, qui est sur la question provient d'un de nos évêques, et je ne m'attarderai pas à présenter Monseigneur, Son Excellence, Monseigneur Bernard Lissier de Marie, vous le connaissez tous, et donc le plus que je vais faire, c'est lui laisser la parole en le remerciant d'être venu jusqu'à nous.
Chers amis, chers confrères en sacerdoce, chers fidèles, le thème de ma conférence est intitulé « Les principes catholiques relatifs à l'œcuménisme, selon le magistère traditionnel de l'Église ». Vous remarquerez que je n'ai pas mis les principes catholiques de l'œcuménisme, c'est volontairement. Il s'agit de développer ce que le magistère de l'Église nous enseigne depuis en particulier Léon XIII dans son encyclique Satis Plenitum, puis Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos, et enfin le Saint-Office avec le cardinal Ottaviani sous Pie XII dans une instruction relative à l'œcuménisme. Petite introduction. L'œcuménisme vient du grec qui signifie universel, un concile œcuménique est donc un concile universel. Mais le mot œcuménisme, œcuménismus, est récent, d'origine protestante. Et depuis Vatican II et déjà avant le concile Vatican II, l'œcuménisme désigne l'effort de rapprocher les diverses dénominations chrétiennes pour réaliser entre elles une certaine union, voire même pour réaliser l'unité voulue par le Christ quand il demande à son Père que tous soient un. Je ne fais que décrire la chose. Depuis les années 70, l'œcuménisme s'élargit aux religions non chrétiennes, à la faveur de l'idée conciliaire du peuple de Dieu, non défini, qui est destiné, dit le concile, à se dilater aux dimensions de l'univers entier, le peuple de Dieu. Donc on a l'image d'une bulle qui se dilate aux dimensions de l'univers. Et ce peuple de Dieu est distinct de l'Église catholique. Quelques notions d'ecclésiologie. Paul VI concevait ce peuple de Dieu selon l'image de divers cercles concentriques. Au centre, le noyau dur de l'Église catholique, et puis autour, l'orthodoxie, l'anglicanisme, les diverses dénominations protestantes, et puis même les religions monothéistes, etc., etc. Toutes ces dénominations étant en communion plus ou moins parfaite avec l'Église catholique. Ce modèle nébuleux, c'est le cas de le dire, de l'Église ne concorde pas avec la définition de l'Église donnée par le magistère traditionnel d'une société visible aux contours précis, société unique et même, comme le rappelle le Concile dans Lumen Gentium, il y a quand même quelques bonnes choses dans ce texte, une société qui est nécessaire au salut. Puisque nous, on nous dit que ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église romaine, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée par Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Le zèle apostolique de l'Église catholique consiste donc à ramener les dissidents au sein de l'Église catholique. Face à ce zèle catholique, nous avons l'œcuménisme qui se propose un but nettement distinct. Interrogé par un journaliste qui lui demandait « Éminence, le cardinal Ratzinger, je parle du cardinal Ratzinger », le journaliste lui demandait « Éminence, pour vous, l'œcuménisme, est-ce le retour des dissidents au giron de l'Église ?» Le cardinal répondit « Non. Pour moi, c'est plutôt l'idée de Paul VI, l'idée des églises sœurs. » Ces fameuses églises sœurs, nous allons analyser cette chose-là. Quels sont donc les vrais principes qui président au zèle de l'Église vis-à-vis des chrétiens séparés? Comment l'Église a-t-elle enseigné cette doctrine par son magistère? Comment le magistère révèle-t-il la fausseté des principes sous-jacents de l'œcuménisme? C'est ce que nous allons étudier. Le décret conciliaire sur l'œcuménisme commence, vous le savez, par les mots « Unitatis redintegratio inter universos Christianos promovenda ». Donc promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens. C'est un des buts principaux du Saint-Concile œcuménique. Le même texte parle de chrétiens divisés entre eux. Chrétiens divisés entre eux. Et affirme que dans cette seule et unique Église de Dieu, apparurent dès l'origine certaines scissions. Question alors, l'Église a-t-elle perdu son unité par les schismes et les hérésies? S'agit-il de recomposer, de rebâtir une unité perdue? S'agit-il de rapprocher entre elles, comme les pièces d'un puzzle désagrégé, les différentes confessions chrétiennes, dans une unité nouvelle? Non, nous allons voir. L'unité n'est pas à restaurer. Le mot « redintegratio » prête à confusion. L'unité n'est pas à restaurer, elle est. C'est l'unité de l'Église catholique. C'est elle que les dissidents doivent réintégrer, au sens du mot « réintégrer ». Revenir dedans, rentrer à l'intérieur, retourner au sein de l'Église catholique. Pénible est donc l'ambiguïté des premiers mots du document conciliaire « Unitatis redintegratio ». Combien clairs, au contraire, sont les principes du magistère traditionnel. Et donc je me permets de présenter la chose d'une façon très simple, en énumérant un certain nombre de principes. Je ne fais pas une analyse des documents magistériels, mais une synthèse, en donnant les principes que l'on peut extraire du magistère. Le premier principe est que l'unité est une note ou propriété caractéristique de l'Église catholique, selon la volonté de son divin fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, et que cette unité consiste dans une unité sublime, c'est-à-dire surnaturelle, de foi, de sacrement et de gouvernement. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de Saint-Pie X, Pourquoi dites-vous que l'Église est une ? Et il répond, je dis que l'Église, la véritable Église est une, parce que ses fils, en quelque temps et en quelque lieu qu'ils appartiennent, sont unis entre eux dans la même foi, le même culte, la même loi, la participation au même sacrement, sous un même chef visible, le pontife romain. Donc, comme je le dis, l'autorité du magistère ordinaire et universel, qui est représentée par ce catéchisme, suffit. Pas nécessaire d'évoquer d'autres autorités. Donc, vous voyez, l'unité de l'Église, selon la volonté de son fondateur, c'est une unité tout d'abord divine, d'origine divine, toute surnaturelle. Et ensuite, il nous est dit qu'elle consiste essentiellement dans une unité de foi, et secondairement dans une unité de discipline et de gouvernement, mais essentiellement dans une unité de foi. Comme je le dis, cette unité est fondée avant tout sur la vraie foi. Et par conséquent, troisième propriété de cette unité, elle n'admet pas de plus et de moins. Donc, première propriété, c'est une unité divine et surnaturelle. Deuxième propriété, elle est essentiellement une unité de foi. Troisième propriété, elle n'admet pas de plus et de moins. Elle est ou elle n'est pas. Est non non. Chez les communautés, comme chez les individus. Gommer, effacer un article de foi, ne serait-ce que le plus petit, iota unum, c'est perdre la foi tout entière, parce que c'est récuser l'autorité de Dieu révélant, qui est l'objet formel de la foi, comme enseigne saint Thomas. Quant aux articles qu'il tient encore, quant aux articles de foi qu'il tient encore, l'hérétique n'aura pas la foi concernant ces articles qu'il tient encore. Il n'aura pas vraiment la foi, mais seulement une opinion selon sa volonté propre, enseigne saint Thomas. Bien que certains non-catholiques puissent errer de bonne foi et conserver la foi divine sur ce qu'ils croient de vrai, néanmoins, l'Église, qui juge seulement des externis de ce qui apparaît, parce que des internis, ecclesia non diudicat, donc l'Église ne suppose pas qu'il puisse y avoir la foi chez les adultes non-catholiques. Au contraire, comme le montre le père dominicain, le père Bernard, dans son commentaire de la Somme théologique sur les questions de la foi, les non-catholiques sont généralement très arrêtés dans leur pertinacia. On ne peut pas supposer qu'ils aient la foi catholique, même sur les articles de foi qu'ils admettent. Ainsi, les orthodoxes, par exemple, les chrétiens séparés orthodoxes, sont très arrêtés dans leur opposition à l'Église romaine et au dogme de la primauté du pape. On ne peut pas supposer, du moins à juger extérieurement des choses, que les orthodoxes aient la foi catholique, et donc l'unité qui repose sur la foi catholique. Par conséquent, dire que de tels chrétiens, comme les orthodoxes, ou les chrétiens séparés, ont dans une certaine mesure l'unité voulue par le Christ, c'est une contre-vérité, c'est une erreur. Dire que l'orthodoxie est en communion plus ou moins grande avec l'Église catholique, c'est une erreur. Il n'y a pas de plus ou de moins en matière de foi. Elle n'est pas du tout en communion avec l'Église catholique. Elle ne possède pas du tout l'unité voulue par Jésus. Là où il n'y a pas la foi catholique intégrale, là il n'y a pas l'unité. Donc c'est le premier principe que nous enseigne le magistère de l'Église. J'ai invoqué le magistère ordinaire et universel de l'Église, représenté par un des catéchismes traditionnels. L'unité est donc divine et surnaturelle, elle consiste dans une unité de foi, essentiellement, et n'admet pas de plus et de moins. Deuxième principe, que nous appellerons, si vous le voulez bien, principe et fondement, par analogie avec le principe que saint Ignace, dans ses exercices spirituels, nous propose. Et ce principe et fondement est le suivant, pour nous ici, cette unité voulue par Jésus-Christ pour son Église est la propriété de l'Église catholique seule. Ce principe se décompose en trois assertions qui forment un syllogisme. La majeure, Jésus-Christ a voulu pour son Église cette unité dont nous avons parlé, comme une note, comme une marque de son essence divine. Mineure, l'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique. Conclusion, donc, l'Église catholique, et elle seule, possède cette unité en propre. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Satis Cognitum, en 1896, il y a plus de 100 ans, sur l'unité de l'Église, développe la majeure de notre syllogisme. Il dit ceci, « Jésus-Christ n'a point conçu ni institué une Église formée de plusieurs communautés qui se ressembleraient par certains traits généraux, mais seraient distinctes les unes des autres et non rattachées entre elles, par ces liens qui peuvent rendre indivisible et unique l'Église dont nous faisons si clairement profession dans le symbole de foi, je crois, en l'Église une sainte catholique apostolique. » Donc Léon XIII refuse ce modèle d'une Église composée de plusieurs communautés distinctes qui ne forment pas une réelle unité entre elles. Quant à la mineure, à savoir l'identité totale, absolue entre l'Église de Jésus-Christ et l'Église catholique, elle est proposée par Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis en 1943, qui dit ceci, « Cette véritable Église de Jésus-Christ, celle qui est sainte, catholique, apostolique, romaine, mérite le nom de corps mystique de Jésus-Christ. » Donc Pie XII enseigne l'identité absolue entre l'Église, voulue et instituée par notre Seigneur, et l'Église catholique. La conclusion suit, par conséquent, l'unité appartient à l'Église catholique seule, l'unité que nous avons précédemment définie comme une unité surnaturelle, une unité de foi, une unité indivisible. Tout est là, dans ce principe et fondement. L'unité appartient à l'Église catholique seule, qui est elle seule la véritable Église de Jésus-Christ. Si on comprend, si on admet ce principe et fondement, on comprend alors le zèle de l'Église pour le retour des frères séparés. Si on refuse ce principe et fondement, on tombe dans l'écuménisme. Donc le principe fondamental, énoncé par Vatican II, est que l'Église catholique n'est pas identiquement l'Église de Jésus-Christ. Mais que l'Église de Jésus-Christ ne fait que subsister dans l'Église catholique. C'est le fameux subsistit in, enseigné dans Lumen Gentium, parlant de l'unique Église de Jésus-Christ, dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Le Concile dit ceci, cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Donc l'Église de Jésus-Christ ne fait que subsister. Elle n'est plus identique à l'Église catholique. Le rapporteur, le relator du Concile, de la commission doctrinale au Concile Vatican II, avait expliqué, quelques mots sont changés par rapport au schéma précédent. Quelques mots sont changés. À la place de Est, cette Église est l'Église catholique. Ecclesia Est, Ecclesia Catholica. On lit à la ligne 21, Ecclesia subsistit in Ecclesiam Catholicam. Pour que l'expression concorde mieux avec l'affirmation d'éléments ecclésiaux qui se trouvent ailleurs. Ut expressio melius concordet cum affirmatione de elementis ecclesialibus qui alibis alibi adsunt. Donc, c'est la destruction de la loi de l'unité, de cette règle d'or, de ce principe et fondement de l'identité entre l'Église catholique et l'Église de Jésus-Christ. Vatican II ébranle donc la loi d'airain, l'ex aérea, la loi d'airain, de l'identité que Pie XII réaffirmait. Le principe et fondement du zèle catholique pour les dissidents. Le Concile en arrive à déclarer ainsi que les communautés catholiques, les communautés chrétiennes non catholiques, en tant que telles, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Église du Christ, l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut. Le zèle catholique est tué par une telle déclaration. Si les autres dénominations chrétiennes sont des moyens de salut, à quoi bon vouloir convertir ces non-catholiques? À quoi bon vouloir leur faire réintégrer le giron de l'Église catholique? Ce n'est pas nécessaire. Même si l'on vient contredire ce que le même Concile dit dans un autre paragraphe de Lumen et Gentium, comme nous l'avons vu, de la nécessité d'appartenir à l'Église. Donc il y a une certaine contradiction dans le Concile. Un texte nous dit qu'il est nécessaire d'appartenir à l'Église catholique, et un autre texte nous dit que les autres sociétés chrétiennes sont des moyens de salut. Donc réaffirmons ce deuxième principe, principe et fondement, l'identité entre l'Église catholique et l'Église de Jésus-Christ, et par conséquent, cette propriété de l'unité qui appartient seulement à l'Église catholique. Il ne peut pas être réalisé, par conséquent, en dehors de l'Église catholique. Troisième principe, un principe plus pratique déjà. Ce troisième principe découle du second principe. On peut l'énoncer ainsi. L'Église catholique ne peut pas perdre son unité. Autrement dit, c'est une propriété inadmissible, inadmissibilis. Elle ne peut pas être perdue par l'Église catholique. Ce sont ceux qui se séparent de l'Église catholique qui perdent l'unité voulue par le Christ. Voyez, dans l'acte même de se séparer de l'Église catholique, ils perdent l'unité voulue par le Christ. Léon XIII enseigne, l'Église est constituée dans l'unité par sa nature même. Elle est une, quoique les hérésies essayent de la déchirer en plusieurs sectes. Bon, notez bien, Léon XIII dit que les hérésies essayent tente, n'est-ce pas, a tentante de la diviser en plusieurs sectes, mais elles n'y parviennent pas. L'Église catholique reste une. Et ce n'est pas sans raison que les pères de l'Église représentent l'Église catholique sous le symbole de la tunique sans couture du Christ, tunica inconsutibilis, parce qu'elle repose, qui est indéchirable par conséquent. Pourquoi ? Parce que l'unité de l'Église repose sur les promesses et la prière efficace de Jésus-Christ, chef de l'Église. Par conséquent, et ceci est capital, l'unité est perdue par ceux qui se séparent de l'Église catholique. Et c'est pour leur perte. C'est l'enseignement de saint Cyprien dans son traité De Catholicae Ecclesiae Unitate au chapitre 6. Quiconque, dit-il, se séparant de l'Église, se joint à une adultère, est séparé des promesses de l'Église. Et il ne parviendra pas aux récompenses promises par le Christ, celui qui abandonne l'Église du Christ. Il ne peut avoir Dieu pour Père, celui qui n'a l'Église pour Mère. Et Léon XIII citait ce passage de saint Cyprien dans son encyclique Satis Cognitum. Donc l'unité qui appartient inadmissiblement à l'Église catholique est perdue par ceux qui se séparent de l'Église catholique et qui ensuite vivent en dehors de l'Église catholique. Quatrième principe, nous avons vu jusqu'à présent des principes plutôt théoriques. Le premier principe, donc, c'était définir cette unité voulue par le Christ pour son Église. Deuxième principe, dire qu'elle appartient à l'Église d'une façon inadmissible. Quatrième principe, l'union des chrétiens, dont parle le Concile, hein, Unitatis Redinte Gratio. Donc, l'union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu'en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église du Christ qu'ils ont eu jadis le malheur d'abandonner. Ce sont les paroles du pape Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos sur l'union des chrétiens du 6 janvier 1928. Ce sont des paroles en or. Des paroles en or. Parce qu'elles expriment le sens catholique, source du vrai zèle pour les dissidents. En quoi consiste le vrai zèle pour les dissidents ? La promotion de la conversion de ceux-ci, de leur retour dans le giron de l'Église, in sinum ecclesiae, pour reprendre l'expression tout à l'heure ironiquement utilisée par le journaliste qui mettait le cardinal Ratzinger sur la sellette, vous vous souvenez. Éminence, pour vous, qu'est-ce que c'est l'œcuménisme ? Est-ce que c'est le retour au giron de l'Église ? Et le cardinal, effrayé par cette description, disait non, non, ce n'est pas cela. Il niait la foi catholique, voyez. Il reniait la foi catholique en disant non, non. Il a peur de cette affirmation. Au contraire, Pie XI ne craint pas d'affirmer, n'est-ce pas, que le vrai zèle catholique consiste dans le zèle pour le retour des dissidents au sein de l'Église catholique qu'ils eurent jadis le malheur d'abandonner. Le retour à la vraie Église du Christ. N'est-ce pas justement cette attitude, l'attitude des catholiques ukrainiens actuels ? Quelle est leur situation ? C'est un exemple pour illustrer ce principe, le retour à l'unité. Leur Église catholique, je parle des catholiques ukrainiens, vient de sortir des catacombes. Elle a une aura de sainteté, une réputation d'indépendance vis-à-vis du régime communiste, qui attire par conséquent les orthodoxes et qui facilite grandement le prosélytisme des catholiques, leur zèle pour la conversion des frères séparés et le retour des frères séparés au giron de la seule vraie Église. Mais voilà, le diable n'est pas content. Le diable insuffle à Rome la haine de ce prosélytisme dont les succès humilient et menacent l'orthodoxie. Rome va faire une alliance avec le schisme contre le catholicisme. Cette politique est résumée dans le document de Balaman. La déclaration de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe du 23 juin 1993 à Balaman. On y lit le désaveu de l'effort de conversion des autres chrétiens, individuellement ou en groupe, pour les faire retourner à sa propre Église. Vous voyez, on dénigre le prosélytisme catholique. Le texte ajoute, pour légitimer cette tendance, source de prosélytisme, je mets entre parenthèses la chose affreuse et interdite, l'Église catholique développa, par le passé, la vision théologique selon laquelle elle se présentait elle-même comme l'unique dépositaire du salut. C'est une vision théologique. La foi catholique devient une vision théologique. Mais maintenant, nous dit Balaman, cette vision est à rejeter en faveur de l'aspect redécouvert par le Concile, de l'Église comme communion entre Églises sœurs. Nous y voilà, les Églises sœurs. Et on ajoute, il ne s'agit plus de rechercher la conversion, mais de réaliser ensemble la volonté du Christ par une commune recherche entre Églises, qui se reconnaissent mutuellement comme Églises sœurs. Alors, bien chers amis, au nom de ce dialogue illusoire, on interdit la conversion des dissidents. C'est diabolique. On interdit, interdiction de redevenir catholique. C'est diabolique. On les maintient dans l'erreur, dans l'hérésie, dans le schisme, au nom du dialogue. 50 ans plus tôt, dans Mystici Corporis, le pape Pie XII exprimait un esprit tout autre, l'esprit catholique, par ses paroles. Nous désirons que monte vers Dieu la commune supplication de tout le corps mystique, c'est-à-dire l'Église catholique, pour lui, afin que toutes les brebis errantes rejoignent au plus tôt l'unique bercail de Jésus-Christ. Il y a juste 50 ans. On mesure, chers amis, l'abîme doctrinal qui, en 50 ans, s'est creusé avec la doctrine catholique. 5e principe. Dans ce zèle pour la conversion des dissidents et le retour à l'unité catholique, l'Église ne condamne pas les discussions doctrinales. Il y en a eu par le passé. La plus belle, c'est celle qui eut lieu au Concile de Florence et qui réussit à ramener toutes les églises séparées, pour quelques années ou quelques mois, hélas. Mais l'Église ne condamne pas le dialogue, disons, la discussion doctrinale avec les dissidents, mais elle demande que soient observées certaines règles, présentées justement par l'instruction du Saint-Office du 20 décembre 1949, signée Ottaviani, intitulée « De motione ecumenica », sur le mouvement œcuménique. Le magistère, évidemment, voulait poser des barrières à ce mouvement qui déjà devenait désordonné. D'abord, il faut que les dissidents recherchent la véritable unité, eh oui, qui repose sur la vérité. Il faut leur dire ces choses clairement et sans ambiguïté. D'abord parce qu'ils cherchent la vérité, c'est présupposé. Il faut qu'ils cherchent la vérité. Sinon, c'est inutile de commencer un dialogue avec eux. Ensuite, parce qu'en dehors de la vérité, il ne pourrait jamais y avoir une véritable union. Donc vous voyez, le magistère exclut d'avance qu'on se propose, comme le cardinal Ratzinger l'indique, non pas un œcuménisme de retour, c'est une citation de Ratzinger, mais une unité des églises. Les églises demeurent et deviennent une église. Les églises au pluriel demeurent et deviennent une église au singulier. C'est un problème mathématique insoluble. Réduire la pluralité à la singularité. Les églises demeurent et elles deviennent une église. Et le même Ratzinger promeut une réunion corporative dans la différence. Donc, corporative, c'est-à-dire les églises restent une entité, chaque église reste entité, et elles se rapprochent, n'est-ce pas, en gardant leur différence. Et on prétend que ça fait l'Église. Ça réalise l'unité voulue par le Christ. Il est clair, chers amis, qu'on n'a pas en vue la véritable unité. Voilà. Ensuite, les évêques, parmi les règles pratiques des discussions théologiques, les évêques doivent veiller à ce qu'on ne nourrisse pas un dangereux indifférentisme qui viserait à croire que l'on peut se sauver également dans les églises séparées. C'est impossible actuellement depuis Assise en 1986, qui fut une profession pratique par Jean-Paul II de la divinité de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Comment ne pas nourrir l'indifférentisme ? Actuellement, c'est impossible. Ensuite, on évitera une autre erreur qu'on appelle irénisme, qui vient de eirene en grec, la paix, le pacifisme. L'irénisme, qui est cet optimisme désordonné, qui table sur ce qui unit déjà en omettant ce qui divise. Et on se gardera, dit le magistère, on se gardera d'un vain désir d'assimilation progressive des différentes professions de foi, assimilées ou accommodées en quelque sorte aux doctrines des dissidents, au point que la pureté de la doctrine catholique est à en souffrir. C'est essentiel cela. Et voyez le danger continuel des déclarations communes signées par l'Église catholique depuis le Concile avec les Églises séparées. Par exemple, le compte-rendu final de la commission mixte œcuménique de vérification des anathèmes du XVIe siècle entre l'Église catholique et les luthériens en Allemagne, déclarant que c'est la foi qui, justifiant toute la vie de l'homme, l'attire à Jésus-Christ et lui donne confiance en la promesse de Dieu. On prétendait donner une définition de la foi qui fut commune aux catholiques et aux protestants. Et en même temps, une définition de la justification. Le passage de l'état de péché à l'état de grâce. Résultat, on a une formule parfaitement équivoque, qui prétend être à la fois catholique et protestante. On parle de la foi qui justifie la vie de l'homme, hein, qui attire à Jésus-Christ et qui donne confiance dans la promesse de Dieu. Vous avez la foi fiduciaire de Luther. Vous avez un mélange, n'est-ce pas? Le flou de la formule, la vague de la formule, prétend donc réconcilier la foi fiduciaire de Luther avec la doctrine catholique de l'infusion de la grâce sanctifiante dans l'âme. C'est l'équivoque parfaite que, justement, demandait d'éviter ce document du Saint-Office. Également, on évitera, demande le Saint-Office, dans l'exposition de l'histoire de la Réforme, d'exagérer tellement les défauts des catholiques ou de dissimuler tellement les fautes des réformateurs qu'on ne voit et ne sente presque plus ce qui est essentiel dans la Réforme, à savoir la défection dans la foi catholique. Voyez. Contrairement à cette prescription issue de la foi, l'œcuménisme est une suite continue de mea culpa, sur la poitrine de nos pères dans la foi. Une succession d'actes de repentance dégoulinant de sentimentalisme mensonger. C'est un scandale, ces actes de repentance. On ne voit que soi-disant les fautes des catholiques et on oublie les fautes des séparés. On oublie ce qui est essentiel, dit le Saint-Office, hein, ce qui est essentiel, à savoir la défection dans la foi. Deficere a fide. Voilà l'essentiel. Et ce fut la même chose pour les Juifs, n'est-ce pas? Deficere a fide. Ces mea culpa sont insensés. Il s'agit de mettre au contraire en évidence ce qui est essentiel dans le schisme, dans l'hérésie, à savoir la séparation de l'unité, la défection de la foi, bien sûr. Enfin, regula capitalissima, je dirais, la doctrine catholique doit être exposée totalement et intégralement. Il ne faut point voiler par des termes ambigus ce que la vérité catholique enseigne sur la vraie nature et les étapes de la justification. Voilà, tenez, justement. Sur la primauté de juridiction du pontife romain, encore une fois, avec l'encyclique Ut unum sint, pas où Jean-Paul II prétend chercher peut-être une nouvelle définition de la primauté du pape, pas qu'il ne heurte pas les frères séparés. C'est impossible. Impossible. On ne peut pas voiler en termes ambigus ce que la vérité catholique enseigne clairement. Je passe, n'est-ce pas? Je passe. L'instruction du Saint-Office de 1949 finit par une recommandation à l'égard des dissidents, qu'ils soient bien persuadés qu'en revenant à l'Église, ils ne perdront rien du bien qui, par la grâce de Dieu, est réalisé en eux jusqu'à présent. Vous noterez, on ne dit pas le bien qui, par l'appartenance à leur Église, à leur communion, non. C'est le bien qui est réalisé par la grâce de Dieu, c'est tout. Ils ne perdront rien du bien qui est réalisé par la grâce de Dieu jusqu'à présent, mais que par leur retour, ce bien sera plutôt complété et amené à sa perfection. On évitera pourtant de parler sur ce point d'une manière telle que, en revenant à l'Église, ils s'imaginent apporter à l'Église un élément essentiel qui lui aurait manqué jusqu'ici. Oui, les valeurs de salut présentes chez les dissidents, par exemple le baptême, hein, la profession de foi, le credo, etc. Ces valeurs de salut présentes chez les, chez les chrétiens non catholiques, les dissidents, ces valeurs appartiennent en propre à l'Église catholique, qui en est la seule dépositaire légitime. Chez les dissidents, ces vérités ne sont pas légitimes. Elles sont servantes de l'erreur. Je conclurai, bien chers amis, par trois points, si vous voulez, trois petits points dans ma conclusion. Premièrement, fondée sur notre foi catholique, qu'est-ce que nous allons faire ? Fondée sur notre foi catholique, à l'école des conciles et des papes, que nous avons cités, spécialement Léon XIII et Pie XI, eh bien, pénétrons-nous des principes du zèle catholique pour le retour des dissidents. Ce zèle est une partie intégrante de l'apostolat missionnaire de l'Église. Je ne parle pas d'écuménisme, je parle d'apostolat missionnaire. Deuxièmement, l'écuménisme, nous l'avons vu, par son ecclésiologie sous-jacente d'une église divisée en elle-même, composée d'églises sœurs, cette fausse ecclésiologie. De même, de par ses principes qui combattent le zèle catholique, nous avons vu avec Balaman. Et enfin, par ses méthodes qui sont infidèles aux directives traditionnelles de l'Église. Nous avons vu, par exemple, les déclarations communes équivoques. Eh bien, l'écuménisme est une entreprise perverse qui s'oppose à l'unité voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle empêche la conversion. L'écuménisme empêche la conversion des non-catholiques. C'est donc une entreprise perverse qui s'oppose à l'unité voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une unité toute divine, toute surnaturelle. Troisième point, beaucoup plus grave, non seulement l'écuménisme s'oppose à l'unité catholique, mais il travaille et coopère à bâtir une autre unité. Non plus l'unité qui vient de Dieu, qui est surnaturel et qui est catholique, mais une contrefaçon d'unité, je dirais une contre-unité, dont d'autres que moi, ici dans ce congrès, vous ont parlé et vous expliqueront encore la nature trouble et l'origine ténébreuse. Je vous remercie de votre attention.
Sua Eccellenza, Monsignor Pissi Marvè, ci darà adesso la conclusione del convegno.
Seigneur, chers amis, le troisième congrès théologique de Sissi-Nono a eu pour thème l'écuménisme. Trois questions capitales se sont posées au cours des exposés. Premièrement, l'écuménisme est-il catholique? Et sinon, peut-on le corriger dans le sens d'un écuménisme catholique? Et pourquoi, au bout de plus de 30 ans, l'écuménisme ne progresse-t-il pas, mais stagne-t-il dans une décomposition générale? Deuxième question, l'écuménisme élargi à l'échelle des religions mondiales, est-il légitime? Est-il vrai que le Christ est l'aboutissement de toutes les religions, comme le dit Jean-Paul II? Troisième question, l'inspiration et l'aboutissement de l'écuménisme ne sont-ils pas les mêmes que ceux de la franc-maçonnerie et du Nouvel Âge? allons-nous vers une super religion mondiale? Et quelle est-elle? Pour répondre à ces interrogations, il était impossible de le faire sans mettre en lumière d'abord les principes catholiques du zèle pour le retour des frères séparés, en opposition avec les faux principes de l'œcuménisme. Principes catholiques énoncés sans cesse par le magistère de l'Église, jusqu'à la veille du Concile Vatican II. Au contraire, à partir de Vatican II, avec Unitatis Redintegratio, que nous aurions pu analyser en détail, on voit les nouveaux principes et la rupture opérée par le Concile lui-même. Pour nous, nous nous sommes efforcés personnellement de comparer le principe catholique du retour des dissidents au bercail. Ce sont des mots importants. Il s'agit d'un retour de dissidents au bercail de l'unique Église catholique. Et puis, d'un autre côté, la réunion corporative des Églises dans la différence, proposée par le cardinal Ratzinger. Ensuite, le père Pierre-Marie de Kergorlais s'est attaché à relever et à connoter théologiquement les dissonances plus fondamentales encore entre la notion catholique et révélée de l'unité de l'Église, unité indivisible, surnaturelle, qui consiste essentiellement dans une unité de foi et qui est la forme même de l'unité de l'Église, et puis la notion d'unité développée par la théologie conciliaire, qui fait appel au concept équivoque et élastique de communion plus ou moins parfaite, d'ordination à l'Église, etc. Le professeur Andrea Dalle Donne, dans sa communication « Unita et Pluralita », a brillamment montré que, de même que la pluralité des religions non catholiques, qui est la pluralité des formes actuelles de l'apostasie par rapport à l'unique foi divine, procède d'une volonté propre qui se préfère à l'autorité de Dieu, eh bien, de même, la foi divine est précédée par un premier amour pour la vérité première, qui préfère Dieu à l'esprit propre. Une autre racine philosophique de l'œcuménisme conciliaire, c'est la notion conciliaire de dignité humaine. Monsieur l'abbé de Sainte-Marie nous a décortiqué tout à l'heure cette dignité que Gaudium et Spes définit « obéir à sa conscience érigée en absolu, dans l'indépendance de toute autorité extérieure créée. » Parce que cette indépendance est la voix de Dieu parlant directement à l'homme. Ainsi, la dignité consiste dans la sincérité et non plus dans la vérité. Et par conséquent, le respect de cette dignité subjectiviste exige la liberté religieuse et l'œcuménisme, c'est-à-dire le dialogue des consciences. Ce ne sont pas seulement certains concepts généraux, dignité, unité, etc., qui fondent l'œcuménisme, c'est toute une ecclésiologie nouvelle. Celle-ci tend déjà dans les textes conciliaires à opérer une réduction du dogme extra ecclesiam nulla salus. Ainsi, l'Église catholique n'est plus la société du salut à laquelle il faut appartenir pour se sauver, mais elle doit être conçue comme le sacrement universel du salut. Monsieur l'abbé Juan Carlos Ceriani a montré que cette doctrine trouve ses racines dans l'ouvrage du cardinal Journet, l'Église du Verbe incarné. Pour en finir avec les principes, les aspetti laico-immanentistici du professeur Paolo Pascalucci étaient un petit peu une énigme avant son exposé. Sa conférence nous a montré comment la constitution Lumen Gentium du Concile mélange par une laïcisation profane l'unité surnaturelle de l'Église avec une unité naturelle indéfinie du genre humain dont notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église conciliaire devraient être le moteur, le sacrement. L'évocazione del professore romano Amerio, dans son dernier livre, Stat Veritas, par le docteur Enrico Radaelli, nous a rappelé que les vérités que l'homme dit sont d'abord les vérités pensées par le Logos, le Verbe divin. Ce principe est rejeté par tous les falsificateurs de la parole, tels que les derniers papes œcuménistes. L'œcuménisme conciliaire, tout comme la liberté religieuse du concile, repose sur la reconnaissance de la légitimité, c'est-à-dire de la divinité, des religions chrétiennes non catholiques, qui, comme le déclare Vatican II, ne sont nullement dépourvues de signification dans le mystère du salut, puisque l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut. Et vous le savez bien, Mgr Lefebvre réfuta au Concile, dans son texte déposé au secrétariat du Concile, cette erreur contre la foi. Il disait « Une communauté, en tant que séparée, ne peut jouir de l'assistance du Saint-Esprit, puisque sa séparation est une résistance au Saint-Esprit. » L'Esprit Saint ne peut que agir directement sur les âmes ou user des moyens qui ne portent aucun signe de séparation et qui appartiennent de soi en propre à l'Église catholique. Donc, après avoir recherché les principes de l'œcuménisme et les principes catholiques opposés à l'œcuménisme, notre congrès s'est penché sur les sujets de l'œcuménisme, c'est-à-dire l'œcuménisme avec les autres religions. L'œcuménisme avec les orthodoxes n'a été mentionné qu'en passant. En revanche, la contribution de M. l'abbé Schmidberger sur le protestantisme montre les difficultés philosophiques et pratiques du dialogue avec les nombreuses dénominations issues de la révolte de Luther. Comment discuter avec des gens qui nient la valeur de l'analogie pour connaître Dieu? Donc, c'est ce qu'on appelle l'agnosticisme philosophique, qui nie par conséquent la théodicée et la loi naturelle, et qui nie même le libre arbitre de l'homme. À côté des dénominations chrétiennes séparées, l'œcuménisme élargi depuis Vatican II par le secrétariat pour les non-chrétiens, élargi aux religions mondiales, prétend embrasser dans le dialogue interreligieux, entre autres, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Le décret conciliaire Nostra Aetate sur les religions non-chrétiennes considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes, comme le rappelait le père Riffan tout à l'heure. Eh bien, il revenait à M. le professeur Dominique Vien de nous parler du judaïsme actuel. Est-il, comme on l'a dit après le Concile, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, qui n'a jamais été révoqué? Peut-il attendre la venue du Messie avec les chrétiens, sans se repentir d'avoir rejeté et tué le Messie il y a 2000 ans? Et cette repentance théologique n'est-elle pas plus urgente et plus fondée que la soi-disant repentance catholique? Dissiper les équivoques était aussi nécessaire à l'égard de l'islam. Monsieur l'abbé Patrice Laroche nous a présenté cette religion qui, au fond, malgré ses apparences de religion révélée, est un rationalisme négateur de tous les mystères surnaturels et dont les vertus sont l'antithèse des vertus chrétiennes. Enfin, M. l'abbé Laurence a bien voulu nous entretenir du bouddhisme et de l'état de libération parfaite et de l'illumination suprême que cherche à atteindre, selon les termes mêmes laudatifs du Concile Vatican II, cette philosophie qui n'est qu'un athéisme déguisé. Il est évident qu'un dialogue entre les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et ses ennemis agnostiques, incrédules, rationalistes ou athées, ce dialogue ne mène à rien si ces derniers demeurent dans leur disposition. En outre, la reconnaissance par l'Église d'éléments de vérité religieuse contenus dans les religions non chrétiennes, même si on les appelle semina verbi, n'est pas, c'est impossible, une reconnaissance en elle d'une vertu salvifique surnaturelle et ne saurait mener à la reconnaissance de ces vérités en tant que telles, comme moyen de salut. L'œcuménisme élargi qui se pose ces deux erreurs est totalement illégitime. Son expression à Assise, le 27 octobre 1986, est la démonstration de son hérésie sous-jacente, l'hérésie de l'œcuménisme. Assise est la reconnaissance de la divinité du paganisme, déclarait sans embarge Son Excellence Monseigneur de Castromayer à Écône le 29 juin 1988, à la veille des sacres. Oui, reconnaissance de la divinité du paganisme. C'est abominable. Enfin, un troisième point dans cette conclusion, la pratique de l'œcuménisme méritait qu'on tente d'en retracer l'histoire. Monsieur l'abbé Sélény, dans le tableau qu'il fait de l'œcuménisme, démontre que l'œcuménisme est par définition l'organisation du schisme. L'œcuménisme dit catholique est donc la tentative de faire tomber l'Église catholique dans le schisme. Monseigneur Lefebvre le dénonçait dans son sermon des sacres en 88. Ce n'est pas nous, ce sont eux qui sont schismatiques. L'Église conciliaire, qui veulent organiser le schisme dans l'Église. Le docteur Paolo Taufer nous a présenté le Conseil œcuménique des Églises, ses origines maçonniques, ses vains efforts pour y faire adhérer l'Église catholique. Et finalement, sa perte de vitalité due à sa compromission avec les idéaux terrestres onusiens. Le docteur Carlo Alberto Agnoli a traité des rapports entre l'œcuménisme et la franc-maçonnerie, le premier n'étant qu'une partie du plan maçonnique résumé par ces deux mots « solve coagula ». Il fallait d'abord tenter de dissoudre, la faire éclater, l'unité catholique, ce fut l'œuvre de Luther et des sectes, pour ensuite replâtrer les morceaux, les coaguler dans une unité nouvelle, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, unité nouvelle du culte de l'homme, du novus ordo seculorum, derrière lequel se cache le culte de Satan, le satanisme. Le pape Jean-Paul II fut-il initié à ce plan? C'est bien possible. En tout cas, M. l'abbé Simoulin nous a montré en Jean-Paul II un libéral typique, réfléchi, déterminé, acharné, qui dévoie la charité en la séparant de la foi et qui désoriente lui-même le Concile Vatican II dès son origine par l'orientation qu'il lui donne dans son discours d'ouverture. Son Excellence Monseigneur Bernard Follet, connaisseur du Nouvel Âge, nous en a esquissé les tenants et les aboutissants. La parenté de ce mouvement, né de l'occultisme, avec l'œcuménisme conciliaire et la gnose du salut universel, tout cela est très frappant. L'esprit des ténèbres est donc bien l'inspirateur de l'œcuménisme et de la nouvelle religion mondiale qui se prépare. Concernant le dialogue œcuméniste actuel depuis le Concile, le docteur Heinz Lothar Barth, qui n'a pas pu venir à notre session, a relevé avec finesse deux des procédés hétérodoxes qui prétendent à y disposer le dogme catholique. Il a réfuté l'équivoque de la hiérarchie des vérités de foi et la fallacieuse prétention de Jean XXIII d'opérer une reformulation des dogmes qui, sans toucher à leur contenu, puissent les rendre acceptables par les frères séparés. Enfin, il revenait au père Fernando Areas Rifan de démontrer que l'œcuménisme est l'antithèse de la mission. La mission de l'Église, de par la volonté de son divin fondateur, est de retirer tous les peuples de la bonne foi, comme disait Mgr de Castromayeur, pour leur donner la foi. L'œcuménisme, c'est le contraire. Comme la messe nouvelle est œcuménique et détruit la mission, de même la messe traditionnelle est missionnaire et conquérante, me disait-il. Alors courage, ne perdons pas l'espérance. Il semble que nous devrions être écrasés par ces menaces œcuménistes et sataniques. Non, courage, nous avons la messe traditionnelle, missionnaire et conquérante. Nous gardons ce grand moyen de l'Église et pour l'Église. Concluons, si vous voulez bien. L'œcuménisme nous paraît intrinsèquement pervers. Il est faux dans ses principes, satanique dans son inspiration et son terme, antichrist dans sa pratique, puisqu'il détourne les âmes du Christ. Il constitue une contrefaçon humaniste de l'unité catholique et une profanation démoniaque de la charité divine. Par-dessus tout, sa prétention de réaliser une unité universelle de l'humanité plus vaste et supérieure à l'unité catholique voulue par Dieu est un blasphème vraiment exécrable. Alors la grande question se pose, comment des papes, plusieurs papes, ont-ils pu entraîner l'Église pendant des décades dans cette voie de schisme? C'est un mystère non de lumière, mais un mystère de ténèbres, parti du mystère d'iniquité, prédit par saint Paul et annoncé par les illuminés lucifériens des deux derniers siècles. Courage, chers amis, non prevalebunt. Armons-nous de foi et de cette vive et authentique charité divine qui anime le zèle des vrais pasteurs pour le retour des dissidents et la conversion des infidèles à l'unique arche du salut. C'est animé de cette charité que le pape Léon XIII adressait il y a juste 100 ans aux non-catholiques dans sa lettre apostolique Preclara Gratulationis, ce vibrant appel. Souffrons que nous vous tendions affectueusement la main, que nous vous convions à cette unité qui ne fit jamais défaut à l'Église catholique, et que rien ne pourra jamais ravir à l'Église catholique. Depuis longtemps, cette commune mère vous rappelle sur son sein. Depuis longtemps, tous les catholiques de l'univers vous attendent avec l'anxiété de l'amour fraternel, afin que vous serviez Dieu avec nous, dans l'unité du même évangile, d'une même foi, d'une même espérance, dans les liens d'une parfaite charité.